Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 6 mai 2022 et merci de votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire au menu de votre Culture 5. Nous commencerons par Claire-Marie et Roger Garcia, notre couple nonagénaire, très écolo aujourd'hui. Ensuite, ce sera Jean-François Rechner qui nous parlera de Monsieur Jean, encore une fable, et Magdeleine suivra avec son Nashrudin. Et nous terminerons ce magazine avec Isabelle et Lou. Une précision, Lou est en CM1. Mais, comme je viens de vous l'annoncer, retrouvons Claire-Marie et Roger qui, lors de ma dernière visite, m'ont fait découvrir une écolo mystique du 11e siècle.
Hildegarde, vous connaissez ? Depuis quelques années, elle a ressurgi après des siècles de sommeil. Céréales, plantes aromatiques, épices, boissons recommandées ou à éviter, remèdes, baumes, onguents, plantes utiles et cosmétiques. Mais, nous dit Hildegarde, plantes et épices sont parfois à manier avec prudence. Bonnes seulement quand elles sont associées à d'autres ou indiquées uniquement pour un problème précis. On évitera par exemple la réglisse si on souffre d'hypertension. Souvent citée aujourd'hui, mais en fait très peu connue, Hildegarde de Bingen se présente à nous comme une des grandes figures de l'Europe et comme une personnalité riche et variée, car en effet, elle était douée de dons célestes particuliers et perça les secrets de la théologie, de la médecine, de la musique et d'autres arts. Elle écrivit de nombreux livres et mit en lumière le lien entre Dieu et création. C'est pourquoi elle fut proclamée sainte en 2012, après tant de siècles. Comme quoi tout peut arriver. C'est un bien pour l'humanité, notre préservation de la nature, pour l'écologie, dont on parle tant aujourd'hui.
Est-ce que cette Hildegarde est la première écolo de l'histoire ?
Je pense que oui, parce qu'au XIe siècle, c'est quand même... Et qu'elle ressurgisse au XXe, XXIe, disons, quoi, voilà... C'est quand même curieux, hein. Et maintenant, elle est très, très connue. Enfin, pour ceux qui sont très écolos. Et si, moi, j'ai trouvé tous les livres qui la concernaient à l'abbaye de la Meilleraie, donc près de Châteaubriand.
En Loire-Atlantique ?
En Loire-Atlantique, voilà.
En France ?
En France, oui.
Et qu'est-ce qui domine pour vous ? Est-ce que c'est son côté écolo ? Ou le côté religieux ?
Ah ben les deux. Elle a fondé aussi, on dirait peut-être maintenant des congrégations, mais je veux dire, adaptées à la nature, toujours. La nature. Toujours. Et où l'alimentation, le jeûne même, parce que maintenant, évidemment, on parle beaucoup de jeûne également, mais sur un plan uniquement gastronomique, j'allais dire. Tandis qu'elle, tout est axé en même temps sur un jeûne, non seulement pour l'alimentation, mais aussi pour la spiritualité, pour retrouver la création selon Dieu, parce qu'elle est très croyante, voilà. mais elle ne se sert pas de sa croyance comme prosélyte, quoi, pas du tout. Elle pense que tout est lié.
Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu est écolo?
Tout à fait.
Bon. Et vous-même, vous voyez ça comment dans votre vie avec Roger?
Nous, on n'est pas... Enfin, on est écolo, si vous voulez, mais on n'est pas écolo, on n'est pas prisonnier du bio. Quand on a bio, on est content. On n'en fait pas. Si c'est pas bio, j'en mange quand même. D'accord. Voilà.
Vous n'êtes pas des intégristes du bio.
Non, voilà, voilà, c'est tout à fait ça.
Merci infiniment, Claire-Marie. Merci, Roger. C'est gratuit.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillants à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière. D'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Calme et volupté.
Et Georges Chelon chantait Charles Baudelaire, l'invitation au voyage. Voyage que nous prolongeons avec Jean-François Rechner et Monsieur Jean.
Monsieur Jean était un homme aimable et poli. Lorsque, sous la chaleur, il ôtait sa perruque, son crâne, poilu comme du verre dépoli, brillait sous le soleil du front jusqu'à la nuque. À la belle saison, il se promenait en nage, griffonnant au brouillon des tas de petits mots. Il écrivait souvent, depuis son plus jeune âge, des pièces de théâtre pour les animaux, distribuant à tous, des gros aux petits, les rôles dans ses créations, qu'elles soient tristes ou drôles, expliquant un jour gravement à la fourmi « Si j'ai bien dit que vous étiez travailleuse, j'ai fait de vous une dame non prêteuse, mais ne m'en veuillez pas, je reste votre amie. » « C'est égal, dit la petite avec conviction, je le jouerai bien ce rôle de composition. » Il ajouta, se tournant vers la cigale, « Vous serez une créature un peu frivole. Enfin, je vais jouer l'artiste, la tête folle. Depuis longtemps, j'en rêve, ce sera un régal. » La mise en scène soignée avec la cigogne devait montrer le loup, animal au cou court, sous un jour peu flatteur, se mettant vite en rogne et résonnant mal, pour tout dire, un peu balourd. Aussi, dans la scène suivante, avec le chien, fou de sa liberté, merveilleux vagabond, de la captivité, il s'enfuit à grands bonds, pensant qu'avec des chaînes on ne peut vivre bien. Les animaux comprenaient ceci aisément. Monsieur Jean leur expliquait tout si poliment. Quand il était parti, ensemble, ils répétaient « Jamais de bagarre dans les sous-bois n'éclatait ». La faune, unanime, reconnaissait sans peine que c'était un homme affable de La Fontaine.
Dans ma cervelle se promène ainsi, qu'en son appartement, un beau chat fort doux et charmant, quand il miaule, on l'entend à peine, tant son timbre est tendre et discret, mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde, c'est là son charme et son secret. Cette voix qui perle et qui filtre dans mon fond le plus ténébreux me remplit comme un verre nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels mots et contient toutes les extases pour dire les plus longues phrases. Elle n'a pas besoin de mots. Non. Il n'est pas d'archer qui morde sur mon cœur, parfait instrument, efface plus royalement chanter sa plus vibrante corde que ta voix. Chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est comme en un ange, aussi subtil qu'harmonieux. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumé pour l'avoir caressé une fois rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu, il juge, il préside, il inspire toute chose dans son empire. Peut-être est-il fait, est-il Dieu. Quand mes yeux vers ce chat que j'aime tirer, comme par un aimant, se retourne docilement, et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement.
De nouveau, Georges Chelon, Baudelaire et son chat. Après Jean-François Rechner, Monsieur Jean et ses animaux, c'était bien vu, non? Vous écoutez Culture 5, le magazine de la rédaction de balado-gazette.fr. Et maintenant, c'est Magdelaine qui s'invite au banquet des chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans le monde facétieux et philosophique de Nashrouddin. Lors d'une précédente émission, je vous avais présenté Nashrouddin, un personnage mythique haut en couleur dont les facéties ont circulé dès le XIIIe siècle dans une grande partie du monde. Ce fou sage, cet idiot sublime, n'avait pas son pareil pour brouiller les pistes, faire rire et réfléchir en chevauchant les paradoxes et les non-sens. J'ai choisi ces trois histoires pour vous montrer combien le temps n'a aucune prise sur lui, car on le voit apparaître aussi bien au Moyen-Âge qu'à notre époque moderne. Nashruddin se reposait à l'ombre d'un grand figuier. « Comme la nature est bizarre, » songe-t-il. « Je me demande pourquoi un arbre aussi imposant et majestueux donne des fruits si petits qu'il faut les chercher sous les feuilles, alors que dans le champ d'à côté, des pastèques énormes poussent sur de misérables tiges ligneuses. » Il en était là dans ses pensées, lorsqu'une figue mûre se détacha et vint s'écraser sur son crâne rasé. « Ah oui, je comprends. J'aurais dû y penser plus tôt. La nature sait ce qu'elle fait, n'est-ce pas ?» Timour, le barbare, était un chef de guerre très cruel. Un véritable tyran qui aimait bien décapiter lui-même ceux qui osaient lui déplaire. Son conseiller, Ismaël, était aussi cruel que lui et détestait Nashruddin qui le lui rendait bien. Un jour qu'Ismaël avait fait fouetter un pauvre innocent, Nashruddin, furieux, lui lança pour l'impressionner. « J'ai consulté les étoiles à ton sujet, Ismaël. Ta mort est prévue pour demain. » Ismaël ricana en haussant les épaules. Mais le lendemain, il fit une chute à cheval et se tua. Bien qu'il fût peiné d'avoir perdu son conseiller, Timour commença à s'inquiéter des pouvoirs magiques de son bouffon Nashruddin. Alors, il décida de le tuer et le fit convoquer par ses gardes. « Approche, chien malfaisant !»« Puisque tu es devin, les étoiles ont dû te prévenir du jour de ta mort !» Le sabre de Timour était prêt à s'abattre sur Nashruddin.
« Et ça, tu l'as lu, ça, dans les étoiles ?»
Nashruddin, qui n'en menait pas large, répondit.
« Oui, Seigneur, mais... j'ai vu aussi dans les étoiles que ta mort était prévue le lendemain de la mienne. »
Furieux et dégoûté, Timour jeta son sabre par terre. Puis il s'éloigna en laissant la vie sauve à son bouffon. Un quadrimoteur est en difficulté. Le commandant de bord s'adresse aux passagers par le haut-parleur. Un des moteurs est défaillant, mais il n'y a rien à craindre. Nous volons désormais avec 3 moteurs qui va entraîner un retard de 15 minutes. La nouvelle alarme certains passagers. Nashruddin, qui est du voyage, les réconforte. « Oh, 15 minutes, les amis, qu'est-ce que c'est ?» Le calme revient. Peu après, le commandant de bord s'adresse encore aux passagers de l'avion. « Nous avons à nouveau des ennuis avec un deuxième moteur, mais nous continuons notre route avec les 2 moteurs restants, ce qui entraînera un retard d'une demi-heure. » L'annonce provoque un petit malaise et Nashruddin intervient une seconde fois. « Bon, nous arriverons une demi-heure plus tard que prévu. Et après ?»« Quelle importance, hein ? Vaut mieux ça que d'y aller à dos d'âne. » Les passagers en conviennent et se calent sur leur siège. Une demi-heure après, la voix du commandant de bord résonne à nouveau.
« J'ai le regret de vous informer qu'un troisième moteur est tombé en panne. Nous arriverons à destination avec 1 heure de retard. »
Nashruddin se tourne vers les autres passagers.
« Espérons que le quatrième moteur tiendra bon, sinon nous passerons toute la journée en l'air. »
Quelques notes de Souad Massi. Et pour dessert de ce Culture 5, je vous propose quelques mots d'enfants. Ils ont été suggérés par Tante Elisabeth et c'est Isabelle Maillard qui nous les sert, accompagnée de sa fille, Lou, à qui nous souhaitons la bienvenue dans Culture 5.
Mots d'enfant. Clémence, 6 ans, accompagne sa grand-mère chez une de ses amies qui a perdu son mari. Elle demande si elle peut visiter sa maison. « Bien sûr !» répond la dame. Quand elles arrivent dans sa chambre à coucher, Clémence dit sur un ton attristé.
« Oh, il n'y a qu'un oreiller. Pourquoi ?»«
Parce que maintenant je vis seule, Clémence. Jean est mort depuis longtemps. »«
Et pourquoi tu ne prends pas un autre monsieur ?»«
Parce que j'aimais beaucoup Jean et que je n'ai pas envie de prendre un autre monsieur, comme tu dis. » »«
Eh bien, tu sais, maman dit toujours que quand on n'a pas envie, il faut se forcer. »
Mots
d'enfant.
Valentine, 5 ans, tient serrée dans la sienne la main de sa grand-mère. Elles sont assises côte à côte à l'église pour assister à l'enterrement de l'arrière-grand-mère maternelle de Valentine. Sur le chemin du cimetière, Valentine, très émue, déclare en multipliant les « tu sais ».
« Tu sais, on ne la reverra plus, mamie Madeleine. Elle est morte. Avant de mourir, tu sais, elle est tombée dans le poma. Tu sais, l'endroit où il y a plein de pommes. »
Mots
d'enfant.
Constance, 8 ans, plonge son regard dans celui de sa grand-mère.
Tu vas faire un effort, grand-maman.
Un effort ? Ça dépend. Dans quel domaine ? Ma petite fille, je ne suis plus très courageuse.
Si, si, grand-maman, tu vas faire un effort. Tu ne vas pas mourir.
Dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi, et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un grand cul. Les deux hommes aidants n'aiment que l'argent et la crème au blanc. Il avait un plan pour le coup d'état, pour un pamping-pong à coup de bazooka. Il avait un tout petit zizi et un grand cul.
Dickham Garn et le regretté Arnaud pour se dire au revoir. Culture 5, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Claire-Marie et Roger, merci à Jean-François, merci à Magdeleine et un grand merci à Isabelle et Lou. On se retrouve vendredi prochain et quand vous voulez sur balado-gazette.fr. Portez-vous bien, à ciao.
Ubu et le roi se rencontra. Twist, ya ya ya. Après l'entrevue, tout à coup, merde, dit Ubu, et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un grand cul.